Bien, bonsoir à tous. Donc, pour ce cours niveau 3, premier cycle, cours de Nouveau Testament, nous allons continuer avec le livre de l'Apocalypse. C'est un cours de Nouveau Testament qui va nous occuper d'ailleurs toute l'année en ce qui concerne l'Apocalypse. Nous avons vu dans le cours précédent, au premier chapitre, Révélation, le livre commence ainsi, Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le texte grec d'ailleurs dit plutôt vite, mais bon, les Bibles françaises l'ont traduit par bientôt. Bien sûr, ça se réfère au kairos de Dieu, au temps de Dieu et non au chronos des hommes. Ce qui signifie, comme le dit le verset 1b, que le temps est proche, toujours selon le kairos de Dieu, que le temps est proche du jour du Seigneur, du jour redoutable du Seigneur à la consommation des siècles. Et nous avions vu la dernière fois que cette terminologie de jour du Seigneur est à double entente. Donc, dans la vision inaugurale qui suit immédiatement l'adresse qui est faite à Jean et qui concerne les sept églises de l'Asie proconsulaire, Jean est amené à voir, à contempler le Christ dans ses attributs divins. Le Christ glorieux dans ses attributs divins. Et ici, bien sûr, dans notre texte, l'Apocalypse est une vision prophétique, cette vision ineffable ne peut être restituée que sous le voile des symboles, et nous savons que dans l'Apocalypse, il y a une profusion de symboles, d'où l'emploi, d'ailleurs, répété du « comme », nous l'avions vu la fois précédente, dans les versets 13 à 16 du premier chapitre, s'agissant de la description du Fils de l'homme dans sa gloire céleste. Vous savez que la première vision, justement la vision inaugurale, nous met en présence du Fils de l'homme dans sa gloire céleste, et nous voyons combien sont utilisés les symboles pour nous faire goûter, nous faire entrevoir cette gloire céleste. Donc l'ordre est donné à Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. C'est dit au chapitre 1, verset 11a. Et par la suite, il dit, voici, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen. C'est au verset 7 du premier chapitre. Autrement dit, on peut rappeler que si la première venue du Christ s'est accomplie dans l'abaissement, dans la kénose, lorsque le Verbe éternel de Dieu est venu parmi nous et a pris notre nature humaine pour la sauver de l'empire de la mort, bien sûr, la seconde venue, elle, se fera dans la gloire. Et la mention des nuées, vous le savez tous, est toujours liée dans l'Écriture sainte aux théophanies divines, et la présence des nuées atteste une théophanie divine. Et cela signifie également que le temps qui sépare la première venue de la seconde est le temps de la grâce et de la miséricorde, alors que le temps, si on peut employer ce terme, qui inaugurera le nouvel avènement et celui du jugement, de la séparation du bon grain de l'ivraie, pour reprendre la thématique d'une des paraboles du Christ dans le Saint-Évangile. Et donc le temps de l'avènement plénier du royaume. Et dans cette grandiose vision inaugurale, il nous est donné à la suite de Saint-Jean de contempler nous aussi, puisqu'il est dit « Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu », c'est au verset 3 du premier chapitre. Et donc, à notre tour, nous sommes conviés à contempler les attributs du Christ glorieux, du moins ceux qui sont décrits ici. Et je rappelle que quand nous parlons d'attributs, nous nous référons à ce que le Christ nous révèle de lui-même. Hein ? Bien sûr, ce ne sont pas des concepts du langage humain qui permettraient d'approcher la divinité, ce sont des réalités révélées. Le Christ se présente à nous sous ses différents attributs, et ces attributs-là, il les révèle lui-même. Ici donc, nous devons admettre les limites de notre propre et pauvre langage d'homme, et c'est pourquoi les visions de l'Apocalypse nous sont données en langage symbolique, car seul ce langage est le seul en mesure de nous faire entrevoir avec les yeux de la foi, bien sûr, les réalités ineffables qui sont décrites dans ce livre. Celui qui révèle de lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga, on trouve toute cette terminologie le premier chapitre, alpha et oméga, qu'il est, il était et il vient, le Tout-Puissant, le Pantocrator, le premier, le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Le détenteur de la clé de la mort et de l'Hadès, eh bien, c'est lui qui, se révélant sous ses différents attributs, commande au visionnaire de Patmos, écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit advenir plus tard. Donc c'est le dernier verset du premier chapitre, le verset 19. Et justement, les versets 19 et 20 du premier chapitre clôturent la vision inaugurale. Et ce sont ces versets qui nous introduisent aux lettres aux sept églises, qui lèvent le voile sur la toute-puissance de celui qui est au milieu des candélabres et qui est comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture d'or, comme c'était dit au verset 13 du premier chapitre. Et le verset 20 nous dit, en clôturant cette vision, quant au mystère des, je cite, hein, quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et donc c'est le Christ qui parle à saint Jean, au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept candélabres d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept candélabres sont les églises. On constate d'ailleurs, parce que c'est dit avant, que les astres eux-mêmes sont les symboles du monde angélique. Et la comparaison des églises aux sept candélabres d'or, mentionnée un peu plus haut dans le premier chapitre, ben, ça signifie quoi ? Ça signifie que ces églises sont consacrées à Dieu. Évidemment, le candélabre fait référence au candélabre qui est présent dans le temple, et l'or est toujours lié à la consécration à Dieu dans l'Écriture sainte. Mais ça signifie également que l'Église appartient à l'autre monde. Elle est présente au sein du monde déchu, bien sûr, mais elle appartient à l'autre monde parce que elle témoigne au sein de ce monde, elle témoigne prophétiquement de la lumière du Christ. Vous voyez, c'est ça l'essence même de l'Église. Et bien sûr, au long des siècles, c'est aussi une institution composée d'hommes, mais c'est d'abord, elle est le témoin prophétique donc de la lumière du Christ et du royaume qui vient. Donc, il y a d'abord cette première vision inaugurale, et puis il y a celle du chapitre 4, qui est la vision du trône de Dieu, qui nous fait entrevoir également la liturgie céleste. Le chapitre 5, qui nous introduit dans le livre scellé de l'agneau, et le chapitre 6, avec l'ouverture des 6 premiers sceaux. Voilà, donc entre la vision inaugurale et la vision qui introduit à ce qui va advenir, eh bien se placent les chapitres 2 et 3 qui sont consacrés aux lettres adressées aux 7 églises. Donc quelles sont-elles ces 7 églises ? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et si l'on regarde le témoignage d'un père apostolique célèbre entre tous, qui est saint Ignace d'Antioche, évidemment, ces 7 églises ne sont pas les seules de l'Asie proconsulaire, qui recouvre à peu près plus de la moitié. Plus de la moitié du territoire de l'actuelle Turquie. Nous verrons d'ailleurs pourquoi, ultérieurement, sont nommées ces 7 églises, et surtout quel est le contenu de ces lettres. Mais avant d'en venir à cela, parce que ça fait l'objet de ce deuxième cours et peut-être du troisième, il nous faut revenir, parce que la fois précédente ça avait été seulement esquissé, il nous faut revenir sur le plan général du livre de l'Apocalypse, un plan qui n'est pas d'ailleurs, qui ne suit pas une rigueur logique, parce que dans ce livre s'entremêlent nombre de thèmes et il y a souvent des redites. Mais néanmoins, on peut quand même, et c'est nécessaire pour ce qui nous occupe, déterminer dans ces grandes lignes quel est ce plan de l'Apocalypse. Donc j'y reviens parce que, comme je l'ai dit, ça avait été simplement esquissé la fois précédente. Alors d'abord, il y a l'adresse et le tout premier chapitre avec la vision inaugurale où Jean contemple successivement ce qui est de l'ordre du passé, du présent et de l'avenir et ce qui doit advenir plus tard. Ça nous a occupé la fois précédente, donc je n'y reviens pas. Et d'ailleurs, on doit considérer à partir de cela deux parties distinctes de la vision inaugurale, donc chapitre 1, verset 9, à partir du verset 9, hein, je passe l'adresse, à chapitre 3, verset 22, c'est-à-dire à la fin de la lettre de Laodicée. Ça concerne donc ce qui est vu du passé, du présent, et ensuite, dans la deuxième grande partie, avec le chapitre 4, on est en présence de la seconde vision, celle du trône de Dieu et de la liturgie céleste, et jusqu'au chapitre 22, jusqu'au verset 15, on est en présence de ce qui va advenir. Puis, donc l'épilogue au chapitre 22, les versets 16 à 21. Épilogue d'ailleurs qui fait écho au prologue, comme nous le verrons. Donc, autrement dit, trois parties distinctes, et du chapitre 4 au chapitre 22, on peut considérer que c'est le corps du livre, parce que c'est là que nous sont données les visions prophétiques à venir. Il y a à l'intérieur donc un certain nombre de subdivisions, nous y reviendrons. La première partie, donc, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, est constituée par les lettres aux sept églises d'Asie, déjà nommées. Et ces sept églises, enfin les lettres aux sept églises, elles ont toutes, pour l'essentiel, une structure identique. Alors, ces sept lettres aux églises d'Asie proconsulaire, elles concernent avant toute chose, bien que ces églises soient nées directement ou indirectement de la prédication des apôtres, et bien que ces églises aient leurs caractéristiques historiques propres, elle concerne avant toute chose l'état spirituel de ces églises qui est décrit alternativement, soit par des paroles de louange ou d'encouragement, ou au contraire de blâme, d'avertissement, voire même de menace, et elles contiennent toute une promesse. Il faut remarquer tout de suite que ces églises, et à travers ces sept églises, toutes les églises de tous les temps, sont aimées du Christ. Ces églises sont aimées du Christ. Le Christ est miséricordieux envers elles. Mais ça ne veut pas dire qu'il accepte n'importe quoi. Il est très au fait, bien sûr, de l'état spirituel de ces églises, et bien qu'il les aime, eh bien, il veut qu'elles s'amendent lorsque c'est le cas. Il veut qu'elles rectifient leur attitude. Il veut qu'elle se défasse de l'esprit de compromission. Et donc là, très clairement, il leur indique ce qu'elles doivent faire. Il est, lui, sans compromission. Alors que certaines des sept églises, comme nous allons le voir, sont dans la compromission. Soit avec l'esprit du monde, soit avec certaines des hérésies en leur sein. Donc le Seigneur connaît très intimement l'état spirituel de ces églises, et c'est pourquoi il les enseigne, il les conduit, il les rectifie, il les met en face de leurs responsabilités. D'ailleurs, comme il fait avec chacun de ses fidèles dans toutes les générations chrétiennes, il manifeste son amour, sa miséricorde, mais en même temps, il place chacun, et là en la circonstance, chacune de ces sept églises, en face de leurs responsabilités, et il les invite à la rectification. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 19, verset 10, le Christ se révèle comme l'agneau immolé et glorifié. Alors, la seconde partie, on va y revenir à la première partie, je déroule le plan là et on va revenir à la première partie sur laquelle je veux insister, au moins en ce jour. La seconde partie, eh bien, c'est proprement le livre des visions prophétiques, puisque Saint Jean, le visionnaire de Patmos, est amené à contempler ce qui doit s'accomplir dans la suite des temps. Ce livre se déroule d'abord sous la forme de 7 visions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre de l'Apocalypse n'obéit pas à notre logique. Et donc les thèmes ne cessent de s'entremêler et il n'y a pas de rigueur chronologique. Et pour toutes ces raisons, et parce que ces visions prophétiques nous mettent en présence des fins dernières, de l'eschatone, il convient toujours, je l'avais dit la fois dernière, je le répète, il convient toujours d'aborder la lecture et la méditation de ce livre avec beaucoup d'humilité. Alors, la première de ces 7 visions du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, verset 1, est l'ouverture des 7 sceaux. Mais première vision contient un sous-ensemble, chapitre 7. Les versets 1 à 8 concernent les 144 000. On verra ce que ça signifie plus tard. Les 144 000 serviteurs de Dieu qui seront préservés et la suite, le triomphe des élus au ciel. C'est les versets 9 à 17. Et ce livre des 7 sceaux, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient des décrets divins. Il nous est dit, donc au chapitre 5, verset 3, un livre roulé, écrit au recto et au verso, et il est précisé que nul n'est digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, de l'ouvrir et de le lire, si ce n'est celui qui a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Donc les versets 3 et 5 du 5e chapitre. Alors on remarque que le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David, ce sont des titres messianiques et royaux, et le fait que ces titres-là soient mentionnés signifie la souveraineté du Christ et signifie également qu'il est le maître du jugement. La troisième version, puisqu'on a compté la première, celle qui est inclue dans le chapitre 7, donc on en est à la troisième. La troisième version, c'est celle des 7 trompettes. Fameuses 7 trompettes de l'Apocalypse, qui marquent le commencement des interventions de Dieu pour chasser les ténèbres du monde. On a passé une étape là. Parce que, à partir de cette troisième vision, eh bien, c'est le déploiement des fléaux qui s'abattent successivement sur le monde. C'est ce qu'on appelle, dans nos éditions de la Bible en français, le signal des plaies. Et par rapport à l'épisode précédent, on passe donc des avertissements qui sont formulés pas dans l'épisode précédent, on passe là au fléau. L'intervention de Dieu et le déploiement de ces fléaux qui vont s'abattre successivement sur le monde. Du chapitre 8, verset 2 au chapitre 11, jusqu'à la fin, donc, c'est-à-dire le verset 19. Il y a, comme dans les chapitres qui concernent l'ouverture des sceaux, à 3 reprises ça intervient d'ailleurs dans cet ensemble, un sous-ensemble, ici constitué par le chapitre 10, donc les 11 premiers versets de ce chapitre 10, et qui concerne l'épisode de l'ange qui tient en main un petit livre ouvert et qui annonce l'imminence de la fin, selon le kairos de Dieu, je le rappelle. Alors sera consommé le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donné à ses serviteurs les prophètes. C'est donc le verset 7 du 10e chapitre. Et l'épisode, versets 8 à 10, où Jean reçoit l'ordre d'avaler le petit livre, nous rappelle, ça c'est important, que l'apôtre Jean n'est pas en quelque sorte passif en face de ses visions, mais qu'il en devient acteur. Il devient acteur des événements qui sont décrits dans cette vision. Parce qu'il lui est dit au verset 11 du chapitre 10, « Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. » Et le chapitre 11, au chapitre 11, les versets 1 à 14, qui fait partie du même sous-ensemble, concerne les deux témoins appelés à prophétiser. Et le récit de la septième trompette, on rappelle, il y avait sept trompettes, donc vous lirez le texte attentivement pour voir comment tout cela se déploie. Le récit de la septième trompette termine le 11e chapitre, les versets 14 à 19. Venons-en maintenant à la quatrième vision du chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 14, verset 20. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vision? On y voit la lutte que Dieu lui-même mène en faveur des siens, en faveur de son Église. Quelle lutte mène-t-il? Bien évidemment, contre les puissances de ce monde. Puissance du prince de ce monde, du Satan et de ses hypostases mineures. Avec là un certain nombre d'éléments, l'épisode de la femme et du dragon, de la bête de la mer, de celle de la terre et du faux prophète au service de la bête, puis de l'agneau accompagné des élus et de l'annonce du jugement des nations. Là aussi, lisez attentivement donc du chapitre 12 au chapitre 14 jusqu'au verset 20, la quatrième vision. La cinquième vision, elle est celle des sept anges aux sept fléaux. Il est à remarquer d'ailleurs que ces sept anges sont revêtus de robes de lin pur, éblouissantes, serrées à la taille, par des ceintures en or. C'est au chapitre 15, verset 6. On a déjà vu, et on verra à plusieurs reprises d'ailleurs, cette vêture des puissances célestes et cette vêture du Fils de l'homme, d'ailleurs, où il y a la robe de lin avec, qui est éblouissante et qui est serrée à la taille par une ceinture d'or. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces anges aux sept fléaux? Ils répandent sur la surface de la terre, qu'est-ce qu'ils répandent? Les coupes de la colère de Dieu. Donc vous voyez, on a avancé là, par rapport à l'avertissement, et là c'est la mise en place de ce dont les hommes étaient avertis. Ils répandent les coupes de la colère de Dieu. Du chapitre 15, verset 1 au chapitre 16, verset 21. « Et j'entendis une voix qui du temple criait aux sept anges, « Allez, répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » C'est au chapitre 16, verset 1. À sept reprises, ce chiffre 7 revient constamment tout au long du livre et on verra toute la symbolique de la numérologie dans le livre de l'Apocalypse. Sept reprises, au moyen des sept coupes, les anges répandirent sept fléaux. Sur quoi ils le répandent? D'abord sur les éléments de la création, sur le trône de la bête, et sur les hommes qui... Alors là, il y a le verset 11, chapitre 16, qui nous donne une notation très intéressante. sur les hommes qui, loin de se repentir de leurs agissements, blasphémèrent le Dieu du ciel, sous le coup des douleurs et des plaies. Vous savez, ça c'est une caractéristique qui traverse tous les temps, c'est-à-dire lorsque Dieu manifeste sa colère, ceux qui parmi les hommes le haïssent, loin de se repentir, dire c'est le temps pour nous de nous repentir car Dieu manifeste sa colère, et au contraire ils s'endurcissent et là ils blasphèment le Dieu du ciel sous les coups des douleurs et des plaies. Et c'est vraiment quelque chose qui traverse toute l'histoire humaine, je pense, d'un bout à l'autre, le passé, le présent et l'avenir également, et ce jusqu'à la consommation des siècles. La sixième vision concerne le châtiment de Babylone, la ruine de la grande cité, qui est, là il y a une description précise, symbolisée par, je cite, « une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires et portant 7 têtes et 10 cornes ». C'est dit au verset 3. Elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abominations et de souillures et des souillures de sa prostitution. Et plus loin, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, au verset 5, eh bien cette cité qui figure par excellence les ennemis de Dieu et de l'Église, donc tout cela, c'est du chapitre 17, verset 1, au chapitre 19, verset 10. Alors, voyez-vous, c'est pas cette Babylone, la grande prostituée, c'est pas simplement la Babylone de ce temps historique, ou de ce qu'elle pourrait suggérer, beaucoup de commentateurs disent que c'est Rome, bon, mais ça va bien au-delà. C'est toute cité qui figure par excellence les ennemis de Dieu et de son Église qu'il aime, qui est son épouse. Et enfin, donc, la septième vision, au chapitre 19, les versets 11 au chapitre 22, verset 15. Et là, on passe encore au-dessus, dans l'accomplissement, c'est le Christ lui-même qui va mener le combat eschatologique pour vaincre les ennemis de son peuple, les ennemis de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il s'est choisi. Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. C'est verset 11 du chapitre 19. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang et son nom, point d'interrogation, le Verbe de Dieu. Verset 13, chapitre 19. Donc ce combat eschatologique, il est mené jusqu'à l'écrasement total des ennemis de Dieu et donc l'établissement plénier du royaume. Alors pardon pour cette énumération qui peut paraître un peu longue, mais il était cependant nécessaire, et il est cependant nécessaire, de suivre de très près le texte. C'est une méthode de lecture qui est celle des pères de l'Église. Les pères de l'Église, s'agissant de l'Écriture sainte, ont toujours considéré avec une très grande attention le texte lui-même, parce que dans le texte de l'Écriture sainte, il n'y a pas une parole de trop, il n'y a pas une parole pour ne rien dire, tout est signifiant, et donc il convient de bien repérer dans ces grandes lignes l'agencement de ce texte et de suivre pas à pas ce vers quoi il veut nous mener. Et de cette manière, d'ailleurs, on peut percevoir, si on prend soin de faire une lecture attentive de ce texte, sans se presser, parce que c'est un texte d'une très grande richesse et d'une grande complexité symbolique, Donc sans se presser, mais en y entrant pas à pas, guidé par l'Esprit Saint, eh bien, cette lecture attentive, elle nous permettra de voir l'unité interne du livre de l'Apocalypse. Et au centre de cette unité interne du livre de l'Apocalypse, eh bien, il y a la lutte que le Christ glorifié mène contre les puissances hostiles, les puissances diaboliques. Et nous voyons, en identifiant le contenu des sept visions sur lesquelles nous reviendrons tout au long de ce cours, les différentes phases de ce combat, parce qu'il y a plusieurs phases dans ce combat mené par le Seigneur, jusqu'à son dénouement, c'est-à-dire la victoire du Christ sur ses puissances maléfiques. Alors maintenant, je vais revenir à ce qui va nous occuper présentement et peut-être aussi dans l'autre cours. Ce que tu vois, écris-le dans ce livre. C'est la vision écrite et destinée aux sept églises, donc les chapitres 2 et 3. Ces lettres, elles ont pour but de fortifier la foi des chrétiens. Elles ont pour but de les garder dans la fidélité à la vérité. Et la vérité, là encore, ce n'est pas un concept philosophique. La vérité, c'est une personne, c'est le Christ lui-même. Il dit de lui-même dans le Saint-Évangile, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et elles ont pour but d'encourager à persévérer jusqu'au bout ces églises, à rectifier leur déviance lorsqu'elles en sont porteuses et à persévérer jusqu'au bout. N'oublions pas que ces lettres sont données dans un temps de grande persécution. Et pour les aider à persévérer jusqu'au bout, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ leur dévoile les fins dernières, à savoir la victoire du Christ sur les ennemis, sur les puissances infernales et les récompenses promises aux serviteurs fidèles, c'est-à-dire à tous ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Il se dégage dans ces lettres une énergie toute particulière, c'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose de viril et ces églises et les fidèles qui les composent sont amenés à maintenir, conserver, persévérer énergiquement dans leur foi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut, pour elles, ou pour chacun des fidèles qui composent ces églises, il faut discerner tous les dangers qui menacent. Parce que vous savez, le combat entre le Christ d'un côté et son Église et les puissances infernales, eh bien, il est jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles du monde présent. Puisque Satan et ses hypostases mineures, Satan et ses légions ont un but, c'est de détruire l'Église de Dieu et c'est de perdre chaque âme humaine. Satan, il est cannibale, il veut manger toutes les âmes humaines. Y compris d'ailleurs celles qui se dévouent à lui, et elle ferait bien d'y regarder à deux fois, parce que Satan est un grand buveur de sang. Donc le livre entier, et pas seulement les sept adresses aux églises, est une invitation à garder comme une lampe allumée qui éclaire la route, la certitude de la victoire finale du Christ et la couronne qui est réservée à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, couronne réservée dans le royaume. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut essentiellement, parce qu'il y a plusieurs méthodes de lecture de l'Apocalypse, mais moi je vous invite à nous concentrer dans ce cours sur l'interprétation eschatologique. Car, bien sûr, si les lettres des chapitres 2 et 3 envoyées aux sept églises de l'Asie proconsulaire sont ancrées dans un contexte historique précis, donc parlent du présent, au moment où le texte a vu le jour, l'essentiel du livre est tendu vers l'avenir, c'est-à-dire vers la période du grand combat qui doit clôturer l'histoire du monde, selon le kairos de Dieu, vers ce qu'on peut appeler aussi, parce que le terme est employé dans l'Évangile, vers les douleurs de l'enfantement qui verront la naissance d'une terre nouvelle et de cieux nouveaux. Même d'ailleurs, le contenu de ces lettres transcende le strict cadre historique dans lequel elles sont délivrées. Alors, pour terminer sur cette présentation du plan général, je citerai un livre qui s'appelle « L'Apocalypse, architecture en mouvement » de Jacques Ellul, qui affirme, je cite, « L'Apocalypse ferme ce que la Genèse avait ouvert ». Nous avions vu d'ailleurs les huit grandes correspondances entre la Genèse et l'Apocalypse lors du cours précédent. « L'Apocalypse ferme ce que la Genèse avait ouvert, on ne peut pas aller plus loin ». Et il ajoute, « En effet, l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, met le sceau le plus parfait à toute la littérature sacrée. Elle en est la conclusion et le couronnement. Mais quoique unique en son genre, y compris dans toute la littérature apocalyptique, ce livre a des points de contact avec tous les autres écrits inspirés, car il est tour à tour historique, doctrinal, moral, tout en demeurant essentiellement prophétique. Livre qui nous transporte à la fin des temps, mais qui fait écho au premier livre, la Genèse, qui lui s'occupe des origines du monde. En effet, de même que les premiers livres sacrés racontent les débuts de l'activité divine, de même l'Apocalypse en décrit la fin, qui consistera à tout renouveler, à faire cesser les souffrances occasionnées par le péché, et à procurer aux élus des délices éternels dans le ciel. Voilà, donc maintenant on en vient proprement à ces sept lettres aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Donc je redis, ces lettres nous montrent évidemment la connaissance que le Christ a de l'état spirituel de ces sept églises et ce qu'il en dit à Jean pour l'écrire et le transmettre à ces églises. Elles commencent toutes ces lettres, elles ont plusieurs caractéristiques communes. Elles commencent toutes par « à l'ange de l'église » suivi donc à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, etc. Alors, on remarque tout de suite que l'Apocalypse n'est pas du tout avare de l'emploi du mot « ange », puisqu'il est employé plus de 60 fois dans le corps du texte. Ange, angelos, c'est le messager. Mais dans l'adresse aux sept églises, s'agit-il, on se pose d'entrée de jeu la question, s'agit-il des créatures du monde céleste ou bien des chefs de ces églises, de leurs épiscopes ou de leurs anciens qui les dirigent? Beaucoup se sont posés la question. Et la question, pourquoi ils se sont posés la question? En remarquant la manière dont c'est formulé, hein, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, ainsi parle, etc. Bon, c'est toujours formulé de cette manière-là. Donc, est-ce que c'est un ange céleste ou est-ce que c'est le dirigeant, l'évêque de cette église qui est nommé ange et messager? La question reste ouverte. Et pour sa part, le père Serge Bulgakov, dans son livre « L'Apocalypse de Jean », nous dit ceci à ce propos. « Le fait que le message soit transmis aux sept églises par l'intermédiaire de leurs anges mérite attention. Ils peuvent signifier aussi bien les gardiens célestes, les anges appartenant en propre aux églises locales, que leurs représentants terrestres, les évêques. » Et le père Serge ajoute « L'une et l'autre interprétation sont possibles, bien que la seconde suscite des doutes quant à la généralisation de l'épiscopat à cette époque, laquelle n'est attestée historiquement qu'à partir du IIe siècle, donc après la composition de l'Apocalypse. » Bon. Ici, pour ce qui me concerne, suite à ce que dit le père Serge, je remarque que l'absence de documents ne prouve qu'une chose, l'absence de documents. Et d'autre part, les actes des apôtres nous montrent que ces derniers, eh bien, vous savez, dans les voyages missionnaires des apôtres, et en particulier les voyages missionnaires de Paul et de ses compagnons, qui sont décrits dans les actes des apôtres, j'en avais parlé dans un cours d'histoire de l'Église il y a 2 ans, eh bien, lorsque les apôtres créent des églises et que les circonstances de leur voyage missionnaire les amènent à quitter ces églises qu'ils ont créées pour aller annoncer la parole et créer d'autres églises, eh bien, ils instituent des surveillants à leur tête. L'épiscope, c'est le surveillant, littéralement parlant. L'évêque, c'est celui qui est le surveillant dans son église. Donc, c'est le conducteur de son église locale. C'est ce que nous nommons l'icône du Christ dans l'église. L'évêque est l'icône du Christ dans l'église. Et ce ministère est d'institution divine. Alors, sur la présence des anges, rappelons, et c'est ce qui montre également pourquoi cette terminologie est très fréquente, non seulement dans toute l'Écriture, mais aussi pour le texte qui nous occupe, celui de l'Apocalypse, il faut rappeler que les anges ont une mission qui consiste à veiller sur les hommes, à veiller sur la création. Il y a des anges des nations aussi. Donc je vous renvoie sur cette question particulière à la prophétie de Daniel, chapitre 10, verset 13, verset 20, verset 21, chapitre 11, verset 1, chapitre 12, verset 1. Également, vous reporterez au Siracide, chapitre 17, les versets 17 et suivants, et à l'évangile de saint Matthieu, chapitre 18, verset 10, ou aux actes, chapitre 12, verset 15. Et il faut remarquer aussi que la présence de l'ange, eh bien, souligne que l'Église, c'est pas seulement une présence institutionnelle, c'est d'abord une présence eschatologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une présence eschatologique, prophétique, au sein même de ce monde qui passe. L'Église, elle est signe dans le temps présent, dans le temps de ce monde qui passe, dans ce monde déchu, elle est signe du royaume, elle est prophétie du royaume. Et donc, elle appartient au monde nouveau. Elle est, nous dit l'Évangile de saint Jean, dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Et c'est pourquoi, en vertu du fait que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, eh bien, elle est haïe par le monde tout au long des siècles, parce que le monde aime ceux et celles qui lui appartiennent, mais les réalités qui ne lui appartiennent pas, évidemment, il les a en haine. Autre caractéristique, les 7 lettres commencent par « Tadelegei, ainsi parle », et Ce ainsi parle, eh bien, le sujet de ce ainsi parle, c'est le Christ, qui ensuite, dans chacune des lettres, est désigné par un de ses attributs qui était mentionné dans la vision inaugurale que nous avons vue au premier chapitre, attribut qui d'ailleurs est en lien très directement avec la situation spirituelle de chaque Église mentionnée dans ces lettres. Et nous allons y revenir là-dessus. Ensuite, il est dit « Oïda, je connais, je sais, je connais, alors par exemple, à Éphèse, je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. À Smyrne, je connais tes épreuves et ta pauvreté, etc. etc. Hein, c'est à Sardes, je connais ta conduite. » Bon, à chaque fois, c'est le même verbe qui est employé. Je connais, je sais. Ce verbe, il est important parce que pourquoi Oïda plutôt que Ginosko? Le premier verbe, d'après les commentateurs les plus avertis, eh bien, il correspond à une connaissance plus large que le second. Et cette remarque qui a été formulée par Pierre Prigent dans son livre qui s'appelle « L'Apocalypse de Jean », qui est un commentaire très suivi, eh bien, cette remarque, elle est tout à fait pertinente. Et on en a une attestation, justement, en ce qui concerne l'emploi de ces deux verbes dans le 21e chapitre, verset 17, de l'Évangile de Saint Jean. Vous savez, c'est le récit où l'apôtre Pierre est restauré dans son ministère apostolique après son triple reniement. Alors évidemment, dans les Bibles françaises, il est dit « Seigneur, toi, tu connais, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime ». Mais ce n'est pas la traduction littérale. La traduction littérale, elle dit « Seigneur, tout toi tu connais, toi tu connais que j'ai de l'amour pour toi ». Amour au sens filia, pas agapé là. Hein. Bon. Mais les deux verbes sont employés. Hein. Oïda, donc, le premier connaît, et gignosko, le deuxième. Et l'ordre de ces deux verbes, il est semblable dans chacune des lettres qui nous occupent. Donc c'est le témoignage, Oïda, c'est le témoignage d'une connaissance plénière, beaucoup plus large que l'ignosco. C'est la connaissance qu'a le Christ de ses églises et de tous les fidèles qui composent ces églises. Ensuite sont énumérés les mérites, pour certaines, les fautes pour d'autres, et l'éloge ou le blâme qui s'attache à ses mérites ou à ses fautes. Et très souvent est répétée la formule « souviens-toi ». Souviens-toi. Parce que par cette anamnèse, il y a moyen de guérir des déviances. On va voir pourquoi et surtout comment ça se passe. Après quoi, le Christ indique en quelque sorte un chemin de guérison pour les péchés que portent certaines de ces églises. Même s'il faut le dire tout de suite, et on va le voir, dans certains cas, il s'agit d'une thérapie de choc. Et il y a une formule finale, après ce déroulement de chacune des lettres, il y a une formule finale, c'est l'esprit qui est nommé au singulier d'ailleurs, to pneuma, et qui parle aux églises. Hein ? Par exemple, je prends donc chapitre 2 à la fin de la lettre à Éphèse. Celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors là, on remarquera d'ailleurs que, bon, bien sûr, l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Nous savons que l'Esprit Saint, il est envoyé par le Christ. Il procède du Père, mais il est envoyé par le Christ. Là, il est nommé au singulier, c'est-à-dire que c'est la personne de l'Esprit, alors que dans la vision inaugurale, on parlait des sept esprits, des sept attributs de l'esprit, renvoyant donc au livre d'Isaïe, au chapitre 11, où sont nommés ces attributs de l'Esprit Saint, et qui soulignent la plénitude de l'esprit. Donc là, c'est une personne, celle de l'Esprit Saint, qui s'adresse aux églises et suit la promesse. Alors selon les trois premières lettres, la promesse est formulée après la mention de l'Esprit, celui qui a des oreilles qui l'entendent, ce que l'Esprit dit aux Églises, et dans les quatre dernières, c'est le contraire, c'est en sens inverse. Et ceci a un sens sur lequel je reviendrai. Celui qui a des oreilles entend, celui qui a des oreilles entende, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc cette formule revient dans les sept lettres, ainsi que je l'ai dit. Et puis ensuite, il y a la mention du vainqueur, la récompense, qui est donnée à qui persévère jusqu'à la fin, qu'il s'agisse pour les fidèles pris chacun personnellement, comme pour les églises, celui qui persévère jusqu'à la fin, eh bien, il est vainqueur et il recevra la récompense. Qu'il soit martyr de sang ou pas, d'ailleurs. Je vais remarquer tout de suite combien ces lettres adressées aux sept églises de l'Asie proconsulaire, dans leur langage, dans leur vocabulaire théologique, dans leur christologie, sont proches des évangiles synoptiques, de l'évangile de Saint Jean en particulier. Je dis ça parce que des beaux esprits ont voulu dire que l'Évangile, le quatrième du nom et l'Apocalypse n'avaient rien à voir en faire ensemble. Et il y a cette proximité, donc, entre cet ensemble d'écrits avec les synoptiques, avec l'Évangile de Jean surtout, avec les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, aux Colossiens, avec la première épître de Saint-Pierre, avec l'épître de Saint-Jacques, mais aussi avec des références constantes dans la prophétie de l'Ancien Testament, avec des proximités avec cette prophétie de l'Ancien Testament. Et enfin, la christologie qui est très clairement exprimée dans ce livre de l'Apocalypse, affirmation très nette de la divinité du Christ, nous met en proximité avec le quatrième évangile, mais aussi avec les écrits du saint apôtre Paul. Le vocabulaire aussi qui est utilisé, donc, que que l'on va retrouver dans ses lettres, mais aussi dans le corps du texte, l'arbre de vie, la seconde mort. Ce vocabulaire, il est présent déjà dans la vision inaugurale. L'arbre de vie, la seconde mort, la manne cachée, nourriture céleste, nourriture de vie éternelle, vie éternelle, vêtements blancs, livre de vie, nom nouveau, le siège avec le Christ, eh bien, l'étoile du matin, ben tout cela nous renvoie à une parenté avec le vocabulaire du Nouveau Testament, mais aussi avec le vocabulaire de toute l'Écriture sainte. Alors, quels sont les reproches que fait le Christ aux sept églises ? Autrement dit, et là je reprends une expression empruntée au livre « Les grandes énigmes de l'Apocalypse », dont l'auteur est Philippe Plais, « quels sont les différents états possibles de la foi qui se retrouvent dans les sept églises ?» Et j'ajouterai que ça concerne, bien sûr, c'est inscrit dans un temps historique précis, mais ça transcende ce temps historique, ça concerne les églises et les chrétiens de tous les temps. Qu'est-ce qui menace ces églises, en fait ? Donc, il est dit que l'église d'Éphèse, qui est probablement la plus importante, on connaît la présence du saint apôtre Jean à Éphèse, c'est l'église la plus importante de ces églises de l'Asie proconsulaire, eh bien, il a dit qu'elle a perdu son amour premier. Bien qu'elle soit constante, qu'elle soit persévérante, et qu'elle sait discerner ceux qui usurpent le titre d'apôtre. C'est dit « Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance, je le sais, tu ne peux souffrir les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre, et tu les as trouvés menteurs. » Tu as de la constance, n'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser ? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. On va voir la situation de chacune de ces églises. Alors l'église de Smyrne, elle aussi est prestigieuse. On connaît cette grande et belle église avec son évêque, pas à cette période bien sûr, c'est plus tardif, c'est au siècle suivant, Saint Polycarpe, qui a subi le martyr à un âge très avancé. Et nous avons la lettre du martyr de Saint Polycarpe. Donc l'église de Smyrne, qui est la deuxième lettre que le Christ adresse aux sept églises, ce qui lui est reproché, il est d'abord dit qu'elle ne doit pas craindre les souffrances engendrées par les diffamations. Alors là, c'est intéressant. Je vais citer le texte. Je connais tes épreuves et ta pauvreté. Tu es riche pourtant et les diffamations de ceux qui usurpent le titre de juif, une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Donc là sont visés très clairement les chefs des Juifs qui rejettent la messianité du Christ. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter et vous aurez 10 jours d'épreuve. Alors, un petit retour en arrière. À Éphèse, l'attribut, c'était « Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa droite et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or », donc qui est le maître de l'Église, comme nous l'avons vu. Et là, c'est « Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris la vie. » Donc, elle ne doit pas craindre les souffrances auquel elle va être exposée, auquel elle est déjà exposée à cause des diffamations de la synagogue de Satan. Donc, elle va être soumise, elle va être tentée et elle va être soumise à des souffrances qu'elle ne doit pas craindre parce que celui qui lui parle, c'est le premier et le dernier, celui qui était avant toute chose et celui qui est après toute chose. Et celui qui est passé par la mort et qui est ressuscité. Qu'est-ce que c'est que ces 10 jours d'épreuve ? On ne sait pas très bien, en fait, puisque le chiffre 10 indique une totalité, et on ne peut pas vraiment déterminer la longueur de ces 10 jours. S'agit-il de 10 jours au sens strict ? Certainement pas. D'une période plus longue, une très longue période, on ne sait pas. Toujours est-il que le Christ l'avertit qu'elle doit rester constante dans l'épreuve, ce qu'elle est déjà, et qu'elle va être soumise à de grandes persécutions. Mais si elle persévère jusqu'au bout, elle recevra la couronne de vie. Si elle reste fidèle jusqu'à la mort, elle recevra la couronne de vie. Autrement dit, elle qui va parcourir le chemin que le Maître a lui-même parcouru, eh bien, sortira victorieuse de la mort et recevra la couronne de vie. Maintenant, l'église de Pergame. Je reviendrai dans le cours suivant, parce que là je n'ai plus beaucoup de temps, mais je reviendrai dans le cours suivant sur l'application des différents attributs que l'on trouve dans la vision inaugurale à chacune de ces églises. Mais néanmoins, je vais terminer là avec la troisième église qui est mentionnée, celle de Pergame. On verra également dans quel contexte historique, en quel lieu et dans quel contexte historique sont nées ces églises, parce que ça aussi est signifiant pour comprendre le message qui est donné. À l'ange de l'église de Pergame écrit « Ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. » Ça, c'est l'attribut donc, avec lequel le Christ s'adresse. L'épée acérée à double tranchant, c'est à la fois donc la parole de vie, hein, la parole de vie, c'est qui ? La parole de vie, c'est le Christ lui-même. Et le Christ, il vient et par sa parole, la parole qui sort de sa bouche et qui est semblable à une épée à double tranchant, il opère le jugement, il sépare. Et c'est un acte de création, ça. Rappelez-vous que dans la Genèse, les différentes phases de la création sont autant d'actes de séparation. Et là, on est dans la nouvelle Genèse, dans la fin des temps, donc un acte de recréation, de nouvelle création. Et cette parole qui est comparée à une épée à double tranchant, eh bien, elle sépare, elle opère un jugement. Donc c'est à la fois l'épée de la parole et l'épée du jugement, comme je l'avais dit dans le cours précédent. « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan », parce que c'était une ville où il y avait un temple païen de très très grand renom. Alors, on sait que cette église n'a pas renié sa foi au Christ. Même lorsque Antipas fut mis à mort. Alors Antipas, c'est qui ? Antipas, c'est l'évêque de cette ville de Pergame qui a été martyrisé sous le règne de Domitien. Donc même lorsque son évêque a été mis à mort, cette église de Pergame n'a pas renié sa foi au Christ, parce qu'on demandait toujours, lorsque l'on conduisait quelqu'un au martyr, pour lui épargner la mise à mort, de sacrifier aux divinités païennes et donc de renoncer, de renier la foi en Christ. Mais, il y a un mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent à la doctrine de Balaam. Donc autrement dit, et je reviendrai là-dessus ultérieurement, là je termine, bien que cette Église n'ait pas renié sa foi au Christ, dans un temps de persécution, elle tolère, elle est dans une attitude de compromission avec certains de ses membres qui diffusent des idées hérétiques. Ici, il s'agit de, par référence à la doctrine de Balaam, il s'agit de doctrines gnostiques qui, elles, sont carrément contraires au salut en Jésus-Christ. Les doctrines gnostiques de l'Antiquité, comme toutes les doctrines gnostiques et des groupements qui les propagent d'aujourd'hui, dans tous les temps, s'opposent au salut en Jésus-Christ, et il s'agit aussi d'un dualisme, parce qu'il y a une référence aux Nicolaïtes, je reviendrai la prochaine fois là-dessus, ça apparaît aussi à d'autres moments dans ces lettres et dans le corps du texte. Les Nicolaïtes étaient des gnostiques aussi, des dualistes, donc, et nous savons combien le dualisme est contraire à l'enseignement de la révélation, d'autant que les dualistes faisaient bon ménage avec toute forme de vie licencieuse, parce que la chair étant promise à la destruction dans leur manière de voir les choses, eh bien on pouvait faire n'importe quoi avec elle. Ça n'avait pas d'importance. Donc, dans cette église de Pergame, il en est qui enseigne ces doctrines et l'Église tolère leur présence en son sein au lieu d'arracher ces doctrines et ceux qui les propagent. Voilà, donc j'en termine là pour aujourd'hui et nous continuerons donc avec les quatre autres églises la prochaine fois. Et aussi, nous reviendrons sur la signification des attributs qui sont donnés à chacune d'entre elles et la correspondance entre l'attribut du Christ que l'on trouve avec lequel il s'adresse à chacune de ces églises et la promesse qui est faite à la fin de chacune de ces lettres s'il y a amendement, repentir et rectification de la part de ces églises. Merci de votre attention.